Alors bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. On est évidemment ravis de vous accueillir pour la semaine anarchiste à la maison de quartier de la Jonction. On vous d'ailleurs remercie énormément de nous accueillir. On a eu quelques difficultés à trouver des endroits et la maison de quartier de la Jonction a immédiatement répondu favorablement à nos sollicitations, donc on les en remercie. Le programme de la soirée, donc voilà, on va commencer avec un débat, juste maintenant. Alors pour ceux, celles et ceux qui sont là pour écouter et participer au débat, ce que je vous propose c'est de vous rapprocher peut-être de l'intervenant pour qu'il puisse être un peu plus convivial. Sachez sinon qu'ensuite le repas après libre vous sera proposé, il sera servi à la petite table là, à gauche des stands, que vous avez donc des stands à vos dispositions, le bar est à l'opposé, et qu'à partir de 20h30, il y aura le concert de la Jonque des Jarrats. Encore une dernière chose avant de commencer le débat, donc la semaine anarchiste continue jusqu'à samedi inclus. Parlez autour de vous, revenez, demain il y aura de nouveau des débats, de nouveau un concert, une projection en plus, samedi, Pestano Albanese. Donc voilà, ça continue jusqu'au samedi 10. Et puis que si vous voulez être informé des activités de la liberté, vous avez une mailing list à votre disposition ici à l'entrée, avec des flyers des prochaines activités. Là aussi, n'hésitez pas à vous servir. Voilà, tout est dit, je crois, j'oublie rien. Voilà, alors bonne soirée et puis bon débat.
Merci.
À toi la parole.
Oui, bah, je vais commencer par me présenter en deux mots. Donc je m'appelle Vincent Gerbert et je me suis intéressé à Bookchin il y a quelques temps au cours de mes études. J'ai été intéressé par toute sa réflexion autour de la domination et ces questions-là. Et quand on regarde un peu sur Bookchin, on s'aperçoit assez vite que c'est très difficile de trouver des informations. C'est assez difficile de trouver des articles ou ce genre de choses, même sur Internet. En français, il n'y a pas grand-chose. Donc j'ai profité de ce que j'avais étudié, enfin de mon parcours dans mes études sur Bookchin, pour rassembler un peu tout ce que je trouvais autour de lui en français. Et j'ai monté un site Internet qui s'appelle écologiesociales.ch, où je mets des liens vers tout ce qu'on trouve, tout ce qui a été traduit. J'essaie comme ça de collecter tout ce que j'ai pu trouver en articles divers, que ce soit de lui ou sur sa pensée, pour que ce soit plus accessible et puis pour que les gens qui s'y intéressent puissent retrouver plus facilement que moi à l'époque ce genre d'infos. Et donc on m'a demandé de faire une présentation de Bookchin, de sa pensée, donc je vais un peu le présenter globalement, je vais survoler un peu les principales choses qu'il a, ses idées on va dire, et je pourrais pas tout dire en une demi-heure, 45 minutes, c'est un peu trop court parce que c'est quelque chose d'assez vaste et assez compliqué. Mais si jamais après on aura un peu de temps pour des questions, justement un débat, enfin, j'espère, et puis on pourra peut-être aller un peu plus loin si vous avez des choses que vous voulez approfondir. Est-ce qu'on entend bien à part ça? J'ai juste ce doute de ce qu'au fond ça va. Plus fort, ok. Ouais, il me semblait que c'était pas forcément évident, mais. Ok, je vais. Je vais aussi essayer de monter le volume. Ouais. Murray Bookchin, il est né en 1921 aux États-Unis. Il était issu de parents émigrés russes, donc il est né comme ça dans ce contexte new-yorkais des immigrés russes. Et il est considéré comme un des pionniers de l'écologie, principalement aux États-Unis. Et c'est aussi, au niveau de l'anarchisme, c'est un des rares idéologues de la deuxième moitié du XXe siècle. Et si on veut le replacer dans la tradition anarchiste, c'est un peu un poursuivant de Kropotkin. Il reste un peu dans ces mêmes idées pour ceux qui connaissent les textes de Kropotkin. Et son projet, il s'appelle l'écologie sociale, et c'est le projet d'une société écologique qui l'a concrétisé de la manière la plus précise, on va dire, sous le thème du municipalisme libertaire. Et je vais en dire quelques mots, mais ce sera le sujet de demain pour le prochain débat. Donc je vais juste survoler la chose et ce sera approfondi dans cette deuxième partie. Donc l'écologie sociale de Bookchin s'est formée à partir de plusieurs réflexions. Et la première, c'était un constat qui a été fait à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, de se dire, voilà, la Deuxième Guerre mondiale, elle s'est pas terminée par une révolution socialiste, comme ça avait été par la première. Et comme ça avait été espéré par les mouvements de ce moment, qu'ils soient communistes ou trotskistes. Et à l'époque, Bookchin appartenait à ces mouvements-là. Et il va dire, voilà, ok, on n'a pas une révolution socialiste, et à la place, qu'est-ce qu'on a? C'est la victoire du capitalisme. Et le capitalisme va montrer, après la Seconde Guerre mondiale, qu'il est capable de réagir face aux crises économiques qu'il engendre, et qu'il est capable d'atténuer un peu ces crises, pour se maintenir et se transformer, pour, euh, pour sortir de ces problèmes-là. Et il y aura pas mal de changements à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Et ce que va en tirer Bookchin, c'est de dire que la lutte des classes, elle est dépassée. La lutte des classes, comme on la faisait au temps de Marx au XIXe siècle, elle est à revoir. C'est pas qu'il n'y a plus de lutte des classes, mais c'est plutôt que l'identification à une classe sociale, ça ne perd plus. Les classes sociales, aujourd'hui, elles se sont multipliées, elles se sont diversifiées. On n'a plus les prolétaires d'un côté, les bourgeois de l'autre, et encore, c'est de toute façon caricatural. Mais on a quelque chose de beaucoup plus flou et beaucoup plus divers, et ça a été en grande partie récupéré par le capitalisme. En fait, la société de consommation, elle a atténué, si on veut, la rébellion des classes, ou cette lutte des classes. Et l'émergence d'une classe moyenne plutôt aisée, ça, on va dire, ça a apaisé les revendications d'un changement social profond. Donc cette analyse de lutte des classes, elle opère plus pour renverser la société comme on la connaît. Et à la place, on recherche plutôt un aménagement et une répartition des profits de ce mode de société. Donc il n'y a plus une identification à une classe sociale qui sert de ciment pour des revendications collectives. Et on est bien plus dans une société de masse qu'une société de classe, finalement. Et ça demande une nouvelle analyse de la part de la gauche. À partir de là, Bookchin va postuler que les personnes les plus aptes à se rebeller contre le système, c'est les déclassés, justement, ceux qui n'appartiennent pas à une classe sociale et qui se retrouvent dominés par le système ou qui se retrouvent en marge, finalement. Et dans cette catégorie, il va faire entrer les chômeurs, les jeunes, les femmes, les personnes victimes de racisme, les artistes aussi, les intellectuels. Donc tout un groupe très différent de personnes qui ont des motivations différentes aussi, qui ne répondent pas à une classe précise et qui ne répondent pas à cette figure du prolétariat comme on le voyait dans les prolétaires d'usine, comme on le connaissait encore au début du XXe siècle. Plus tard, dans son analyse, Bookchin il va parler plutôt de citoyen. Il va abandonner ce terme de déclassé pour dire, voilà, le terme de citoyen, dans son idéal, il est beaucoup plus neutre, il est transclasse, justement, et il implique un certain idéal d'une personne qui est responsable et qui est politiquement engagée dans son lieu de vie. Et ce que va promouvoir Bookchin, c'est dire qu'il faut faire renaître la citoyenneté, il faut se réapproprier l'espace civique, et il faut se réapproprier les moyens de gestion de ce dont on dépend au quotidien. Et pour cela, le terrain de prédilection du militantisme, c'est l'échelon qui est le plus proche des gens, c'est-à-dire la commune. En tout cas, pour Bookchin, ça c'était représenté par la commune. Et c'est de cette base qu'il faudra repartir pour reconstruire la société, mais la reconstruire à partir du bas, c'est-à-dire de ce qui est proche de soi et ce qui nous touche en premier lieu. Donc à partir de là, ça a aussi pas mal de sens de faire ce débat dans une maison de quartier, parce que justement, on est dans un lieu qui cherche à réunir les gens autour des thématiques du quartier, autour des thématiques du lieu de vie, de se dire, voilà, de quoi on aurait besoin, qu'est-ce qui nous manque à cet endroit-là, et comment on pourrait se gérer autrement à cet échelon-là que l'on connaît finalement. Comme pour Bookchin, la lutte des classes était à revoir, il va chercher un autre impératif viable pour contrecarrer le capitalisme ou le remplacer par quelque chose de plus égalitaire. Et il va le trouver dans l'écologie. Ce sera pour lui le nouvel impératif qui va amener la chute du capitalisme, notamment en raison des pollutions, en raison de l'épuisement des ressources qu'il engendre, du réchauffement climatique et aussi de la destruction de l'environnement, auquel pousse le capitalisme par la volonté de profit, par la volonté de croissance et par tout le mode de production industrielle qui va de pair avec lui. Et c'est l'impératif écologique qui va devenir un peu le nouveau levier pour faire tomber donc ce système. En 1962, il va sortir son premier livre qui s'appelle « Our Synthetic Environment ». Il n'a pas été traduit, mais bon, le titre est « Notre environnement synthétique ». Et il va parler dans cet ouvrage, il va esquisser un peu les prémices d'une société décentralisée, enfin d'un idéal, on va dire, de société décentralisée, qui serait guidée par un certain humanisme et gérée à l'échelon local par les citoyens, justement, et par ce qu'il va appeler des éco-communautés libres, décentralisées et confédérées entre elles. et gérée donc sous la forme d'une démocratie directe par les gens qui les composent. Quelque part, on n'est pas très loin d'ailleurs de l'ancien modèle suisse, de l'ancien, enfin, du modèle qui était à la fondation de la Suisse des origines. Et ce n'est pas complètement un hasard parce que la Bookchin s'est beaucoup inspiré des modèles précédents et notamment ce qui a été connu notamment au Grison, donc ces communes qui se sont mises ensemble s'opposer aux grands États qui les entouraient, aux États-nations qui étaient plus forts qu'eux, et qui ont vu leur intérêt à se mettre ensemble, mais toujours sous forme de communes libres qui se socialisent, on va dire. Et Bookchin va utiliser ce modèle et d'autres, celui des cités libres d'Italie du Nord, pour dire, voilà, on ne peut pas dire que c'est impossible, ça a déjà été fait au cours de l'histoire, mais si c'était éphémère ou si ça ne s'est pas maintenu, c'est pour des raisons d'avancée technologique ou c'est pour des raisons de dépendance face à la rareté. Enfin, il y avait tout un certain nombre de facteurs qu'aujourd'hui on a pu dépasser. Donc aujourd'hui on pourrait reprendre ces expériences politiques et les mener à bout. C'était ça un peu le projet qu'il voulait lancer. Mais l'écologie sociale, elle va réellement naître en 1964 quand Bookchin publie son article « Écologie et pensée révolutionnaire ». Et c'est dans ce texte qu'il va poser l'idée de base de l'écologie sociale qui dit que l'idée de domination de la nature, elle provient de l'idée de domination de l'humain sur l'humain. C'est-à-dire que les problèmes écologiques qu'on connaît, ils découlent finalement directement des problèmes sociaux. Et il est illusoire de vouloir créer une société écologique sans régler ces questions sociales au préalable. Donc une société écologique et égalitaire, elle peut se mettre en place qu'en changeant nos rapports entre nous, en abolissant les relations de domination qu'on a instaurées, en abolissant les hiérarchies institutionnalisées et en revoyant nos institutions pour quelque chose de plus coopératif et égalitaire. Et ce qui va dire, c'est que le fort développement technologique qu'on a connu, justement au sortir de la Deuxième Guerre, ça nous place au seuil d'une nouvelle forme de société. On est aujourd'hui véritablement capable de donner à chacun ce dont il a besoin et gratuitement. On pourrait ne plus être obligé de travailler toute la journée pour vivre, et on pourrait légitimement envisager de gérer les ressources d'une façon commune pour répondre aux besoins de chacun. Donc pas vouloir chercher le profit en vendant des objets, mais chercher à satisfaire les gens, pas à créer le besoin, mais au contraire les combler. Et on serait donc par cela en mesure de revoir notre mode d'existence, de réduire drastiquement le temps consacré au travail et d'utiliser le temps libre pour s'éduquer, pour s'impliquer socialement dans notre entourage, pour s'impliquer politiquement dans notre lieu de vie, etc. Et de revoir complètement la façon dont on fonctionne. Donc techniquement, il dit c'est possible, on peut le faire. Mais si ça ne s'est pas réalisé, c'est parce que finalement la possession et l'organisation technologique, enfin de nos technologies, il est volontairement restreint par ceux qui les dirigent et qui les détiennent, finalement. Et c'est une façon de maintenir artificiellement notre société dans un monde de rareté, ce qui engendre une domination économique et psychologique. Donc il faut sortir de la logique du marché, il faut remettre sur pied une économie de gestion démocratique des ressources et des biens qui sont produits, et la dévouer à la satisfaction des besoins réels, comme je l'ai dit, et non pas à une recherche de profit. Et pour Bookchin, il ne fait aucun doute que nos sociétés modernes, elles ont toutes les cartes en main pour réaliser cela, et on pourrait mettre en place cette société réelle, libératrice. C'est une question de choix, finalement, et c'est une question de choix qui nous revient et qui doit être revendiquée par le bas. C'est vraiment un choix qui doit être retrouvé de force, on va dire, par les citoyens, parce que ceux qui le détiennent aujourd'hui, ils vont pas le lâcher délibérément. Ça veut dire que on a des personnes qui aujourd'hui détiennent le système et qui forment une sorte de force qui le maintient tel qu'il est, parce que c'est à leur avantage, finalement. Et on est donc dans un jeu qui est soi-disant démocratique, mais qui est tronqué. Et il est tronqué parce que des importantes sociétés comme les multinationales, les grands groupes financiers et beaucoup d'autres dominent le système politique grâce à leurs importants moyens financiers, et ils peuvent les influencer en leur faveur et pousser à la croissance et pousser Poussé à la croissance, poussé à des profits supérieurs, sans aucune obligation d'éthique ou sans aucune obligation de rendre des comptes au niveau écologique. Et dans ses recherches pour société plus humaine, Bookchin il va insister sur le besoin de réinsérer l'homme dans la nature. Et il va dire, pour le faire, il faut combler le fossé qui s'est créé entre la ville et la campagne. Il était important pour lui de réduire la taille des villes, de les décentraliser, en se disant que, enfin, une grande partie de ses travaux ont porté là-dessus, et il va dire, voilà, non, je me suis perdu. Il va dire que, en relocalisant la production, on va pouvoir non seulement diminuer les transports, les besoins en transport, les besoins en énergie, mais aussi mieux tirer parti du monde naturel environnant. C'est-à-dire que le mode actuel de production industrielle qu'on connaît aujourd'hui, on pourrait le remplacer par des petites unités qui seraient écologiques, qui n'auraient pas le même rendement, qui n'auraient pas la même vitesse de création, de création d'objets, si on veut. Mais on pourrait être plus efficace, on pourrait être moins polluant, et mieux s'insérer dans notre monde naturel. Et dans le milieu des années 60, il va aussi postuler que les énergies renouvelables, elles pourraient être utilisées dans ce contexte de petites éco-communautés décentralisées afin d'assurer un approvisionnement en énergie complet et que ça pourrait être quelque chose de complètement écologique et finalement gratuit. On pourrait comme ça assurer l'entièreté de nos besoins en énergie par des énergies renouvelables. Donc, on sait aujourd'hui, c'est un thème qui est passablement débattu, mais quand il en parle en 1965, c'est quelque chose de complètement nouveau même. À cette époque, les énergies renouvelables, c'était encore, on peut dire, à ses débuts, c'était une sorte de gadget, et si ça pouvait chauffer votre eau, vous étiez content, mais personne ou presque n'envisageait que ça ait un potentiel véritablement libérateur. Plusieurs des articles de Bookchin vont être rassemblés dans un recueil qui s'appelle Post-Scarcity Anarchism, qui est paru en 1971, et c'est le livre qui va le faire connaître finalement. C'est un de ses grands ouvrages qui va le faire connaître internationalement sur la scène anarchiste. Et à partir de là, dans les décennies suivantes, il va chercher à compléter son modèle, à l'approfondir si on veut, mais aussi à voir de quelle façon il pourrait se réaliser, de quelle manière on pourrait l'amener à s'en approcher ou à le réaliser en partie, etc. Et c'est une question assez importante finalement, parce que dans ce que je vous présente, ça peut paraître très ambitieux, ça peut même paraître un peu utopique par certains aspects, mais on est bien dans l'idée d'une révolution. L'écologie sociale, elle se place dans ce principe qui dit que, enfin, un principe de pensée radicale, qui dit qu'on ne peut pas réformer le système en tant que tel. On ne peut pas engommer les défauts, il faut vraiment aller au fond des choses et revoir complètement le monde de fonctionnement de nos institutions et de tout ce qui nous dirige finalement. Et ce discours sur la révolution, il va quand même passablement le modifier au fil du temps, et Bookchin va se détacher de l'idée d'une insurrection spontanée et révolutionnaire, à l'image des révolutions qu'on a connues dans ces dernières, dans les temps passés, mais qui est encore revenue en ce début d'année en Afrique du Nord. Parce que le défaut qu'il y voit, c'est que dans ce genre de situation, les idéaux qui émanent du peuple, ou les idéaux qui ont poussé à la révolution, ils se retrouvent trop facilement repris ou détournés par des groupes déjà organisés, et qui détournent finalement la révolution à leur propre compte. Là-dessus, Bookchin utilisait souvent l'exemple de la révolution russe, mais on risque bien d'y voir se réaliser plus ou moins d'une façon similaire en Tunisie et en Égypte aujourd'hui. Et il ne faut pas croire que c'est une règle en soi, mais c'est quelque chose que, dans son étude de l'histoire, il a remarqué à plusieurs reprises, c'est-à-dire que les révolutions populaires, elles vont rarement jusqu'au bout de leurs idéaux. Et dans son esprit, ça veut dire qu'elles n'ont pas réussi à amener une sorte de transfert du pouvoir des autorités vers le peuple. On n'est pas réussi à instaurer un gouvernement populaire où les gens peuvent vraiment prendre leurs décisions en main et la gestion de leur vie en main. Et à la place, ce que va promouvoir Bookchin et ce qui deviendra le modèle du municipalisme libertaire, c'est une forme de réappropriation progressive du pouvoir. Il va dire, voilà, il faut créer des institutions libertaires avant la révolution et chercher à les grignoter le pouvoir petit à petit. Il faut vraiment aller le retirer à l'État ses prérogatives et se réapproprier un maximum de choses et le dissoudre dans un nombre maximum de personnes. On peut dire qu'il faut décentraliser le pouvoir comme il fallait décentraliser les villes, c'est la même chose. Mais toujours dans l'idée d'une démocratie directe. Et l'idée, enfin la façon de réaliser cela pour Bookchin, c'était de monter des groupes qui seraient politiquement engagés au niveau local et de créer des assemblées de quartiers ou de villages ouvertes à tous dans l'esprit de réimpliquer les gens en politique, les amener à réinvestir le champ public et politique. Et ces assemblées, elles devront chercher à se faire entendre et à légitimer leurs décisions au bout du compte. Légitimer leurs décisions jusqu'au moment où elles obtiennent une reconnaissance de fait, jusqu'au moment où ce qu'elles décident, c'est un véritable poids politique. Et au fur et à mesure, ces groupes qui se créent devront se lier entre eux, ils devront se confédérer pour accueillir un maximum de pouvoir et retirer à l'État toujours plus de ses prérogatives jusqu'au moment où l'État n'aura plus qu'un rôle mince à jouer, un rôle symbolique, et auquel il faudra le pousser à abdiquer, finalement, à abdiquer son pouvoir au profit de la confédération de communes. Et Bookchin va essayer d'initier ce mouvement, il va vivre de cette façon, il va donner des cours, il va énormément écrire d'articles, il va faire des conférences, il va surtout ouvrir un institut dans le Vermont, où on apprendra cette pensée à des militants et ainsi que d'autres choses sur les technologies alternatives et l'agriculture biologique et d'autres domaines. Et ces groupes qui se créent autour de lui vont s'engager localement, mais on verra que la plupart ne parviendront pas finalement à tenir sur la durée. Les idées qu'il va transmettre, elles vont se répandre, elles vont atteindre un large public finalement, mais au niveau des résultats, la création d'un mouvement municipaliste libertaire, notamment au niveau international, mais même au niveau national aux États-Unis, ça sera, dans une certaine manière, un échec. Tous ces groupes vont finalement rester assez marginaux. Il n'y aura pas tant de monde qui vont suivre ces idées-là. Et lié à ça, dans la fin des années 80 et début des années 90, Bookchin va se retrouver impliqué dans un certain nombre de controverses qui vont, on peut dire, un peu ternir son aura. Et une de ces controverses, ça va l'opposer à différentes tendances du mouvement anarchiste, justement, et notamment la partie, on va dire, individualiste, et ceux qui prônent un certain mode de vie comme une fin en soi, plutôt que l'engagement au niveau politique, et qui prônent un peu, on pourrait dire, un retrait de la vie publique. Et en retour, ces mêmes anarchistes vont critiquer Bookchin pour sa promotion de la démocratie directe, qui pour beaucoup reste une domination de la majorité sur la minorité, mais aussi pour sa vision très puriste, finalement, de son mouvement, qui, avec cette critique de dogmatisme qui sera assez récurrent sur la fin de sa vie. Et d'une manière générale, Bookchin sera assez critiqué par rapport au fait qu'il s'oppose très fortement dans ses textes aux partis divergents, en tout cas aux tendances divergentes. Il était assez rude, on va dire, et parfois même insultant dans certains de ses écrits. Il avait une vision, on va dire, très carrée de ce qu'avait son mouvement. Et c'est quelque chose qui ne va pas très bien passer au niveau du mouvement anarchiste qui prône plus la diversité des approches et des points de vue. Et ça va amener Bookchin à rompre avec le mouvement anarchiste vers la fin de sa vie. Et il va rattacher son écologie sociale et sa pensée à une nouvelle tradition qu'il appelle le communalisme et qu'il rattache au courant historique de la Commune de Paris. Mais finalement, le fond de sa pensée, ça reste inchangé. Voilà, je vais encore dire que vers la fin de sa vie, il était assez malade dans les dernières années de sa vie. Et il est mort à l'âge de 85 ans en 2006, donc il n'y a pas si longtemps. Il a laissé une grande quantité de textes, j'en ai cité un, mais il y aurait un autre assez important qu'il faudrait citer, qui s'appelle « The Ecology of Freedom », l'écologie de la liberté, qui n'a pas été non plus traduit en français, même si on trouve certains chapitres qui ont été traduits ici et là. Et c'est un livre qui traite de l'émergence historique de la domination, qui était un de ses thèmes de prédilection, et des propositions pour la dissolution de la domination. Et maintenant, pour conclure en deux mots, je vais dire que si Bookchin n'a pas réussi à lancer un grand mouvement populaire comme il espérait, à créer vraiment un mouvement de municipalisme libertaire, ces idées ont quand même fait leur chemin, on va dire. Et ce qui reste sa grande force, en tout cas la grande force de sa pensée aujourd'hui, c'est que tous les thèmes qu'il a étudiés sur l'anticapitalisme, sur la domination, sur la décroissance, même à l'époque, alors qu'on n'appelait pas encore ça décroissance, sur la démocratie directe, sur les technologies alternatives, sur le mal-être social également, et les processus de révolution, il les a pas traités en soi. Il a cherché à les mettre en lien et à voir comment ils se coordonnaient les uns les autres et comment ils découlaient un peu des mêmes problèmes. Et avec ça, enfin à partir de là, il a cherché à voir comment on pourrait faire naître une autre société, une société, on va pas dire idéale, mais qui dans son esprit résolvait une partie de ces problèmes-là. Et aujourd'hui, il y a encore pas mal d'éléments justement dans ces questions qui se posent encore aujourd'hui, qui n'ont pas été résolus et qui peuvent continuer de nous inspirer finalement. Voilà. Ça n'a pas été trop long.
On a encore un petit moment pour une discussion, si vous voulez. Par contre, je rappelle que demain, on aura un autre moment comme ça dédié à une discussion plus globale sur le municipalisme libertaire. Et qu'après, samedi, on aura tout l'après-midi, par contre, sur des discussions, sur des exemples plus concrets de municipalisme libertaire, des applications concrètes dans la vie qu'on pourrait avoir ici, sur tous ces sujets évoqués par Bookchin. Dans ce moment...
Je vais juste présenter le livre de Bookchin, Une société à refaire, l'un des rares textes qui a été traduit en français. C'est vraiment un résumé de sa pensée sur l'écologie. Et entre autres, il montre dans ce livre l'insensé du parti écologiste libéral.
Par rapport à ce livre, moi j'ai lu quand j'ai 17 ans, en 77, post article d'anarchisme qui a été traduit à l'époque.
Pour une société écologique.
Pour une société écologique. C'est ça qui m'a amené dans le mouvement de personnes. Ce livre, je trouve, il a un défaut, il prend la tête pour les histoires de nouvel âge. C'est-à-dire toute l'approche, parce que bon, tous les gens qui sont allés à la campagne, vers des communautés ou des groupes, des projets d'autonomie, etc., ils ont eu une approche aussi qui est devenue, dans un certain sens, mystique, c'est-à-dire ils sont réappropriés ce qui avait été constitué par les églises, c'est-à-dire une approche directe de la nature dans ses dimensions. Et ça a donné un courant qui a été, dans un certain sens, récupéré par de nouvelles églises, de nouveaux charlatans, mais aussi une autonomisation par rapport à des niveaux de pensée plus spirituels. Et lui, il reste sur une base hyper matérialiste et qui est vraiment chiant. C'est vraiment casse-couille. Donc ce bouquin, à mon avis, il y a deux, trois chapitres où il faut les trouver. Après, le reste est assez long. C'est vraiment un grand penseur.
Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Il règle un peu ses comptes avec le mouvement de la Deep Ecology et d'autres dans ce livre. Et ça manque un peu d'ouverture. Il a cette vision un peu tout blanc, tout noir, comme tu dis. Il y a bien des défauts dans sa critique, c'est normal. Mais en même temps, il rejette tout d'un coup. Et le livre que tu dis pour une société écologique, effectivement, il est bien meilleur. Mais malheureusement, il est épuisé. et j'ai contacté les éditions, ils ne savaient même plus qu'ils l'avaient en stock, ils n'ont jamais entendu parler de ce livre. Je leur ai demandé s'ils pensaient un jour le rééditer, mais ce n'est pas d'actualité, mais il est bien meilleur. Ouais, ce serait une bonne chose en tout cas, effectivement. On trouve par contre à la bibliothèque ici, à l'université, on trouve aussi pour une société écologique, pour ceux qui sont intéressés. Mais sinon...
Pierre, en anglais.
Je peux le commander en anglais, il n'y a pas de problème. Mais... Oui.
On traduit.
il est en grande partie traduit, c'est ça qui est un peu frustrant, c'est que... Donc pour une société écologique, une grande partie est traduite. Et ce qu'il faut faire, et c'est... Bon, je sais pas si je dois le dire là, mais... Bref, il faut essayer de numériser ces textes. Il faut essayer de les numériser et les remettre sur Internet, finalement. C'est ça que j'aurais souhaité. Hein. C'est ça que j'ai demandé aux éditions Christian Bourgeois, savoir s'ils étaient d'accord. Mais voilà, jamais eu de réponse, et c'est dommage. Mais il faut y aller, je pense, effectivement. On les trouve en anglais sur Internet sans problème. Le livre, on le trouve aussi... Et en français, voilà, une partie a été traduite et ça reste introuvable parce que... Mais il pourrait y avoir un projet avec les éditions Éco-Société, ils étaient assez emballés par l'idée, mais voilà, il faut traduire les derniers textes. Sinon, on peut encore ajouter, je ne sais pas si des gens se sont intéressés à ça, mais il y a un mouvement maintenant qui marche assez bien, qui s'appelle les villes en transition, et qui est proche de Bookchin par certains aspects, mais qui s'en différencie aussi. Et si on veut, l'approche des villes en transition, elle a cette différence qu'elle s'intéresse moins à l'aspect politique et à l'aspect anticapitaliste que Bookchin. Il y a la même idée de créer des villages où les gens se reprennent en main et peuvent décider de leur gestion, mais il reste beaucoup plus dans une approche pragmatique et dans le même système, je pense, de démocratie. Ou en tout cas, on évite un peu la question. Et souvent, on évite un peu la question des systèmes démocratiques. C'est assez dommage, finalement, dans les milieux écologistes, en tout cas. Et c'est, je pense, un des avantages de Bookchin de pointer ce point sensible-là, quoi, finalement.
Pendant la Révolution française, Protocule a fait un excellent bouquin qui est à la librairie d'ailleurs qui s'appelle La Grande Révolution, et où il décrit l'évolution de la Révolution française. Et en fait, au moment où les masses se sont soulevées, parce que ça faisait déjà 10 ans que les paysans ne payaient plus leurs impôts, donc l'État était en train de péricliter, c'est-à-dire les aristocrates et n'avaient plus de thunes, parce que les paysans, c'était qui produisait. Et il y a eu des soulèvements et la bourgeoisie a créé des municipalités qui sont armées pour défendre les biens. C'est-à-dire les municipalités, la naissance des municipalités, c'est pour défendre les propriétés. Par contre, la commune, c'était dans les villes, c'était vraiment l'expression avec les sections par quartier. C'est vraiment l'expression de la démocratie directe et de la révolution, c'est-à-dire d'un esprit révolutionnaire. Alors que les municipalités, c'était plutôt une défense. La municipalité, c'était la bourgeoisie armée pour défendre les propriétés. Donc, si à la fin de sa vie, il est allé vers le communisme, c'est... Et au contraire, la Révolution française, elle est née dans le campagne. Parce que les révolutionnaires, c'était les paysans.
Par rapport à ça, il y a tous ces débats des communaux, pour le justement de terres communes pour les campagnes, surtout de l'entourage, etc., de gravières, ce que tu veux. Puis en fait, il y a l'historien qui a dit qu'en fait, que les gens dans les campagnes étaient tellement forts, je crois, dans le 14e siècle contre les nobles, que je ne sais pas si on allait coloniser outre-mer. Pour économiquement les paysans qui devaient très fort à porter construire ces communautés d'éducation. Ils ont bien fait de plus en plus pour avoir des seigneurs. Et c'est très intéressant en fait, qui dit que c'est ça qui s'en est économisé, sur les canaries, etc., pour apporter un bombardement de ce qu'on fait aujourd'hui avec les délocalisations à la Chine. Il paraît que cette force de se mettre collectivement sur 2-3 siècles, ça crée une force énorme. Voilà, c'est très positif. Il y a d'autres sortes de l'histoire.
Dans les communaux, c'était vraiment au Moyen-Âge et ça a été grignoté après par les aristocrates, pas encore la bourgeoisie, mais les villes surtout. Ça a été grignoté. Les communaux, c'est-à-dire la capacité des gens de vivre sur des terres qui n'appartiennent à personne, qui existent en Afrique, ce droit de la terre, il a été grignoté petit à petit. Et les paysans sont soulevés pour réapproprier les communaux. Et quand le 10 août, quand la Révolution française, quand ils ont déclaré l'abolition de la féodalité, c'était uniquement des mots, parce que dans la réalité, ils ont obligé les paysans à continuer à payer des impôts. C'est-à-dire qu'ils devaient continuer à payer la dîme, etc., puis en leur disant. Oui, mais ça viendra, il faut qu'on mette le texte en route, etc. Et c'est uniquement petit à petit à faire par toujours la pression de la rue, et notamment à Paris, par les sections des communes. Mais en fait, dans les campagnes, c'était déjà fait. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà brûlé les châteaux, brûlé les documents de propriété, etc. Déjà approprié plus ou moins, et dans les endroits où ils ne s'étaient pas tout de suite appropriés les communaux, ils ne les ont jamais eus. C'est-à-dire que la réaction après à Thermidor et compagnie, ils avaient tous les acquis, et ceux qui n'avaient pas, qui ne s'étaient pas réappropriés les communaux, ils n'ont rien eu.
Juste une petite chose de l'actualité, c'est les étudiants patients qui reprennent possession de ce qui est maintenant jardin privé de la ville. Voilà. À part la partie de l'université de Bastion qui est partie en comptant, ben on a appris en fait que c'est la propriété privée de la ville. Donc c'est rattrapé actuellement. On a pas mal de succès, je termine là-dessus. Sans quelques temps, on a une révolution qui débarque, qui nous dit de déplacer tout sur l'internet, on nous dit que tu vas toi. Alors on est juste en train de coopérative, mais tu venais nous soutenir en hiver parce que ça ne serait pas évident si on était en train de Noël et les premiers verrants au jour de leur chalet, y compris le verre. Alors, si vous pouvez venir 2 heures par jour, il y a du pécho, etc., il y a même à manger. Voilà.
Merci. Je voulais juste revenir sur quelque chose que tu avais dit par rapport. Enfin, je suis aussi content qu'il ait été vers l'histoire de la Commune de Paris et cette référence-là. Mais après, le changement vers le non-communalisme, enfin, à titre personnel, je le trouve un peu. Peut-être pas une très bonne idée, finalement. Enfin. Il a surtout allé vers ce terme pour enlever l'idée du libertaire dans le municipalisme libertaire. C'était ça. Il voulait rompre avec l'anarchisme et du coup il a dû trouver autre chose. Mais si on réfléchit au mot communalisme, vous dites ça à n'importe qui, il va comprendre d'abord communisme. Enfin, les mots sont beaucoup trop proches et c'est pas clair du tout. Et là où je veux en venir, c'est que entre les deux, Bookchin a souvent changé les noms des choses. Entre les deux, il a parlé de confédéralisme municipal. Et je pense que ça a l'avantage d'être beaucoup plus clair par rapport à ce que c'est. Et dans un contexte suisse, enfin, c'est mon apport au débat de demain, si jamais, mais dans un contexte suisse, si on lançait quelque chose, si vous parlez de confédéralisme municipal, vous ancrez déjà l'idée dans une sorte de tradition suisse. Et peut-être que c'est un meilleur départ que de reprendre ce terme de communalisme, comme l'ont fait d'autres, parce que c'était plus pertinent. Enfin, un groupe scandinave a appelé son groupe communaliste, parce que dans leur langue, ça voulait dire quelque chose qui était très parlant par rapport à leur mouvement. Mais de là, à le reprendre internationalement, je suis plutôt mitigé. Et je pense que pour ceux que ça intéresse d'œuvrer là-dedans, peut-être qu'il faut se tourner vers l'idée du confédéralisme municipal. En tout cas, c'est une proposition que je vous fais.
Peut-être une question. Est-ce que tu ne penses pas que les idéaux de Bookchin sont déjà défendus aujourd'hui par certains partis politiques?
Question glissante. Une partie, oui, certainement. Après, il faut voir de quel parti politique tu parles. Mais la partie sur les énergies renouvelables ou la partie sur certaines choses, oui, mais le fond du problème, non. Le fond du problème de dire il faut donner beaucoup plus de poids aux communes, il faut que les gens puissent décider eux-mêmes en démocratie directe de la gestion de ce qui les concerne au quotidien, ça, personnellement, je ne connais pas un parti qui l'a mis dans son programme.
Il n'y a peut-être pas un parti qui fait confiance à la société civile, qui se méfie par défaut de l'État et préfère l'associatif de manière générale, non?
Il y en a un qui œuvre dans ce sens, mais je ne pense pas que c'est comment dire, consensuel dans ce parti-là.
C'est de prendre le pouvoir, mais pour modifier la réalité.
Le mouvement libertaire ne s'intéresse pas à prendre le pouvoir. C'est au niveau social qu'il veut.
Mais il souhaitait prendre le pouvoir, Bouchine.
Il sentait le redistribuer, c'est ça, le dissoudre, si tu veux. Voilà. Donc ça sous-entend le prendre, mais pas pour le garder. Ça sous-entend le redistribuer aux gens, aux citoyens de base, quoi.
Le pire cauchemar qu'il pourrait y avoir, c'est des anarchistes au pouvoir. On l'a vu en Libye, c'est un anarchiste au pouvoir.
Ça se défend.
Moi, je peux répondre à un camarade. Il n'y a pas un parti, un mouvement qui a participé aux élections fédérales, qui est un mouvement qui n'est pas un parti, qui a été pour le référendum révocatoire, qui a été démocratique directe, à part l'initiative référendum de pouvoir révoquer une élue qui a dévoyé son mandat, quoi. Il a promis aux gens trucs, c'est machin, on les révoque. Et puis, si le pouvoir commune, etc., je ne veux pas faire la pub électorale ici, donc je te dirai, oh, la il y avait des petites listes tout ça qui sont en bas.
Une petite question encore. Tu disais que l'idée c'était qu'il y a des communes qui se forment dans la société civile et que petit à petit elles prennent du pouvoir par rapport à l'État. Mais est-ce qu'ils précisent un peu comment ou...
Oui, ils précisent je peux même te dire le livre, il s'appelle Le municipalisme libertaire. J'avais chroniqué dans le journal La Figue, mais je crois que t'es peut-être pas encore là. Oui, il fait un peu tout le chemin qui reste un projet. Si tu veux, il fait tout le chemin théorique avec ces groupes qui se forment, qui prennent plus de place, qui font des revendications, qui essaient d'imposer leur choix, en tout cas de prendre plus de poids au niveau politique. Et ouais, ce serait difficile d'en parler un peu plus en détail, mais qu'est-ce que je pourrais dire? C'est ça. L'idée, c'est d'avoir toujours plus de gens, de devenir une sorte de force qui compte au sein de ton lieu de ton lieu de vie, si tu veux. Comme une association d'habitants, mais une association qui, tout à coup, devient vraiment la voix des habitants. C'est un peu ça, l'idée. C'est
un parti politique.
Voilà, par exemple, il y a différentes possibilités pour ça, mais on peut parler aussi de différents réseaux de production et distribution, par exemple, à niveau social, mais on peut parler, on verra samedi on va passer un documentaire sur Spezia Milanese. Au niveau plus politique, c'est l'exemple d'une commune en Italie où des citoyens ont créé une fédération municipale de base qui s'occupe de tout ce qui concerne la ville, qui a très vite pris beaucoup plus de place, qui a très vite décrédibilisé le pouvoir en place et qui a très vite proposé des solutions, etc., qui a pratiquement pris en main la gestion de la ville.
Ouais, son coup d'État par
projet. Son coup d'État et son entrée dans le conseil municipal, en restant contre pouvoir par rapport au pouvoir officiel, mais en étant bien présent, en étant parfois plus fort que le pouvoir officiel. C'est aussi que le grand enjeu, on va en parler les prochains jours, il y a toute la question économique aussi qu'il faudrait voir à côté du politique.
Est-ce que l'anarchie, ce serait pas simplement le véritable réappropriation du pouvoir par le peuple? Parce que j'ai l'impression qu'actuellement, il y a une sorte de dictature financière qui fait que, en fait, le peuple ne doit qu'entériner, même on ne lui demande rien du tout, entériner des décisions qui sont prises à des niveaux qui sont
Oui, c'est ça. J'ai oublié de dire dans ma présentation, mais aujourd'hui, le citoyen, finalement, on lui demande de payer ses impôts et puis d'élire des gens qui décident pour lui.
Voilà.
Donc, effectivement, c'est juste ce que tu dis. Cette vision de l'anarchie, c'est ça. C'est une réappropriation de l'aspect économique, l'aspect de production et l'aspect politique pour pouvoir décider de ce qui nous concerne, finalement, voilà. Simplement. Simplement.
On a été en fait, évacués d'une certaine manière. Et en fait, les grandes décisions ne nous appartiennent plus.
C'est ça. Et il y a aussi cette idée, finalement, que c'est une question de légitimité. C'est là où je veux en venir. C'est une question de légitimité. On n'est plus légitime de décider de ce qui nous concerne. Mais ça ne veut pas dire qu'un système comme le dit Bookchin va automatiquement prendre les bonnes décisions. Enfin, la démocratie directe, elle ne garantit pas la qualité des décisions, finalement. Mais ce qu'elle apporte, c'est cette légitimité dans la décision, finalement. De dire, voilà, c'est nous le peuple, c'est nous qui sommes concernés. Donc nos décisions, si on est une majorité, elles comptent. Enfin, voilà, c'est pas quelque chose qui nous est imposé, c'est pas quelque chose qui vient d'en dessus, dans lequel on n'a pas pu participer.
Mais alors, selon là, est-ce qu'il ne faut pas restructurer la société dans des unités plus petites, qui soient en fait gérables? Parce que moi, je voyais en fait l'image d'un immeuble qui est une unité de base. De fonctionnement d'une société avec chacun une manière de gérer son espace et ses besoins.
Et c'est exactement ça. Après, la question qui se pose, c'est où est la limite? Est-ce que justement on vise un immeuble ou est-ce qu'on vise une commune, comme le dit Bouchard,
ouais.
Ou est-ce qu'on a un système un peu mixte où certaines décisions se prennent au niveau d'immeuble, d'autres au niveau de la commune, etc. C'est là, mais la base, c'est effectivement ce que tu dis, c'est voir les choses à un niveau plus bas, vraiment plus bas, plus proche des gens, à un niveau où on est plus à même de comprendre et de connaître simplement comment ça se passe. Et après, on monte jusqu'au niveau confédéral. Quoi. Ouais, Rob.
On peut même dire que la partie directe sur la qualité des décisions, la partie théorique, tout ça. En fait, non, mais c'est sûr. Évidemment, je ne peux pas le dire, tu prends pas dans une décision collectivement.
Oui,
mais je ne vais pas maintenant citer les grands philosophes, mais il y a Habermas, un pavé, un pavé, je ne sais pas, qui dit d'agir, c'est mal traduit à la fin, mais il dit agir communicationnel, c'est-à-dire, c'est un peu les consensus. Tu discutes avec les autres, tu arrêtes avec les autres politiques. Qui vient pour tous, qui oppose à ça agir stratégique. C'est comment éliminer les concurrents, la mobilisation, etc. Militairement, quoi. C'est une stratégie, tu vas obtenir tel but, il n'y a rien comme tu peux. Et en fait, il y a même des points de vue tout officiels, etc., qui disent qu'ils se réunissent ensemble pour prendre une bonne décision, sur les discours consensuels, etc., qui assure la qualité de la décision. Parce que c'est de l'intelligence collective, on est des êtres sociaux.
Oui, mais je pense que ça dépend de la qualité d'instruction de base. Ça dépend à quel point les gens comprennent la décision et à quel point on a une vision claire des tenants et aboutissants. Je pense que c'est ça qui influence le plus sur la qualité de la décision, si on veut, plus que finalement le nombre ou ce genre de choses. Mais ouais, c'est un débat. Quoi.
Il y a aussi le cœur, l'amour, pas avoir perdu mon amour. C'est-à-dire, il y a le trac et l'instruction. Autrement, c'est facile, c'est de dire le plus haut diplôme universitaire, c'est le frissage. Tout le monde sait que c'est pas comme ça. D'accord ? C'est aussi le cœur, etc.
Ouais. Ouais, c'est juste. C'est juste. Et Bookchin disait ça aussi. Il disait les coopératives et ce genre de choses, c'est un magnifique laboratoire pour ce genre d'expérience, pour amener les gens à décider de quelque chose en commun. Le seul défaut qu'il y voyait, c'est que finalement, une coopérative, comme d'autres choses, elle reste dans un système capitaliste et elles en dépendent finalement. Donc souvent, ce qu'on observe, c'est que soit elles restent très fort attachées à leurs idéaux et dans le cas de coopératives marchandes ou de commerce, elles n'arrivent pas à faire face à la concurrence et elles n'arrivent pas à tenir sur la durée. Soit c'est l'inverse généralement, c'est qu'elles perdent leurs idéaux, elles arrivent à se maintenir, mais ça reste pas révolutionnaire dans son esprit. Donc, il était favorable à ça, il disait effectivement c'est une bonne chose, ça prend aux gens la démocratie directe et ça, mais ça ne suffit pas finalement. C'est ça le point si on veut rester dans sa pensée par rapport à ça. Là.
Alors juste, je pense que beaucoup d'entre vous commencent à avoir le gosier à sec. Perso, je commence à avoir très faim. Non, mais à part ça, on va devoir arrêter là. Donc la suite de la soirée, il y a un repas prix libre. Il y a de quoi continuer la réflexion avec différents ouvrages qui vous sont proposés. Il y a aussi un concert après, et c'est pour ça qu'on est obligé d'arrêter maintenant. La maison de quartier fermant ses portes à 23h. On est obligé à un moment donné de dire stop. Par contre, on veut bien reprendre au même endroit demain. Demain, c'est 6h30. Exactement, on peut reprendre exactement au même endroit, continuer la réflexion à ce niveau-là. Et ainsi que samedi dès 14h, de 14h jusqu'à 7-8h, on peut continuer ces discussions avec aussi un film, un concert, etc. D'accord ?
J'ose suggérer un truc.
Oui.
En fait, j'ai pas compris ce qu'avait dit le monsieur. Parce qu'il manque un micro, je pense, ou quelque chose.
On peut s'organiser encore pour ça. Mais à part ça, je voudrais juste vous remercier tous. On ne pensait pas qu'il y aurait 60 personnes pour cette discussion. Je pense que la prochaine, on pourra la faire sur le spectacle. Parce que là, on sera peut-être mieux. Et en plus, on aura les micros, la sono et tout ce qu'on veut pour pouvoir bien s'entendre.
C'était dommage, j'aurais adoré, j'ai compris à vous cacher ce qu'il a dit.
C'est l'essentiel.
C'est pas la
Donc si vous le voyez bien...